Nous continuons sur cette série d'enseignements que nous avons entamés sur le livre de Néhémie. Donc c'est merveilleux de découvrir ce que Dieu, à travers sa parole, nous montre. Bien-aimé, je ne sais pas si, comme moi, cette parole de Néhémie vous a touché. Mais j'ai comme l'impression que cette parole était pour moi. Bon, d'autres diront aussi que cette parole est pour eux. Mais moi, je dirais que cette parole, franchement, je la fais mienne. Parce que je vois d'où Dieu m'a pris. Je vois d'où Dieu m'a rappelé. Et je vois qu'est-ce qu'il est en train de faire. Nous voyons la bonté, la miséricorde, les merveilles et la fidélité de ce Dieu qui nous attend. Durant des semaines, nous avons vu comment Dieu peut prendre quelqu'un qui n'est pas prêtre, qui n'est pas appelé à son service, pour pouvoir lui donner une mission, pour lui donner un projet. Et c'est là que nous pouvons nous identifier, en fait. Parce que si Dieu a choisi une personne quelconque, c'est qu'il peut te choisir. Il peut t'appeler pour un projet bien précis. Et les murs de Jérusalem étaient détruits. Dieu cherchait quelqu'un pour, en fait, emmener ce projet. Mais il est parti le trouver très, très loin, très, très loin. Plus loin qu'Abussi. Il est parti le trouver à Babylone. Et cette personne travaillait dans la cour du roi où il était échanson. Il a touché le cœur de cette personne. Cette personne s'appelle Néhémie. Et cette personne, quand il s'est souvenu que les murs de Jérusalem étaient détruits, il y a eu de la désolation dans son cœur. Il a voulu reconstruire ses murailles. Et d'où il va voir son roi pour demander l'approbation, et il demande à son Dieu l'approbation dans la prière et dans le jeûne. Et vous savez que quand Dieu donne une vision, il donne aussi des prévisions pour la réaliser. Néhémie arrive à Jérusalem, il inspecte la ville de nuit et il soumet son projet au peuple qui adhère effectivement. Et tous ensemble, ils se lèvent pour pouvoir reconstruire. Ils veulent reconstruire les murailles. Ils entament les travaux. Et petit à petit, ils sont confondus à l'opposition qui naît, en fait, parce que les gens ne voulaient pas que ce projet puisse aller à son terme. Mais l'intégrité, la fidélité de Néhémie a fait que le travail puisse continuer jusqu'au bout. Et en continuant le travail, il s'est rendu compte qu'il y avait aussi une opposition interne qui venait du fait que les provisions n'étaient pas bien distribuées. Il fallait régler ce problème. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui et les travaux sont achevés au bout de 52 jours. Quelle grâce, quel miracle. Après 52 jours, la reconstruction est terminée. Le peuple voit la grandeur de ce Dieu à travers l'ouvrage et décide de connaître ce Dieu. Tout ce peuple était disséminé en Orient. Ils reviennent à Jérusalem. Ils voient ce que Dieu fait. Ils voient ce dont ce Dieu est capable. Ils disent, ils veulent le connaître. Ils décident de connaître ce Dieu et commencent le projet, le vrai projet de Dieu, en fait. Dieu, quand il a donné une vision à Néhémie, c'était juste pour créer un cadre dans lequel il devait asseoir le projet véritable. Le projet véritable, c'était la restauration du peuple. Le projet, le vrai projet de Dieu, c'est la restauration de nos cœurs meurtris. Nous sommes pratiquement disséminés, nous sommes loin de ce Dieu. Quand bien même que nous venons dans la maison de Dieu, parfois, nous ne le connaissons pas. Et c'est pourquoi, en fait, ce peuple décide de connaître ce Dieu. Ils décident, ils veulent connaître qui est ce Dieu qui les avait rappelés à Jérusalem. Et c'est ce même Dieu qu'ils avaient pratiquement livré aux Babyloniens, aux Perses, parce qu'ils n'avaient pas mis en pratique la parole de Dieu. Ce peuple demande de connaître ce Dieu. Il demande de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire. Et de cela, ils appellent le scribe qui était là, Esdras, pour leur lire la parole de Dieu. Bien-aimés, suivez-moi parce que c'est un enchaînement. Vous allez comprendre. Ils demandent à Esdras de leur lire la parole de Dieu. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous avons la grâce, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, tu peux avoir le livre de la loi dans ta poche. Tu peux avoir la Bible à foison, partout où tu veux. Même dans la rue, tu peux l'avoir. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas. Le livre de la loi était lu devant l'assemblée par les scribes. Ils appellent Esdras. Esdras qui commence à lire la parole de Dieu. Il découvre que ce Dieu est puissant. Il découvre ce Dieu, ce dont il est capable. Il découvre que ce Dieu est grand. En entendant la parole de Dieu, le peuple pleure. Il pleure de joie. Il pleure du fait qu'ils viennent s'approcher. Ils commencent à connaître ce Dieu. Ils pleurent. Ils veulent se remettre en question. Mais les scribes disent que non, attendez. Dans la loi de l'Éternel, il était dit, quand le peuple serait disséminé, quand ils reviendront, il fallait des fêtes. Des fêtes de cabane, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Le peuple célèbre cette venue dans la ville. Et quand ils viennent, ils commencent à célébrer les fêtes et découvrent son identité. Il découvre que dans ce livre que Esdras est en train de lire, il y avait des instructions précises qu'il fallait suivre. Le peuple découvre la parole, se réjouit, célèbre la parole qui s'est faite chair, que les hommes ont rejetée et qui est devenue la principale de l'homme. Et nous y sommes aujourd'hui. Continuer ce que Dieu veut nous dire. Mes bien-aimés, nous allons continuer la lecture, notre enseignement par le texte de Néhémie 9. Néhémie 9. Je voudrais lire la parole de Dieu. Père très saint, je te remets ce moment et que le Saint-Esprit touche tout un chacun. Que le Saint-Esprit touche tout un chacun comme le Saint-Esprit avait touché à la lecture de ce livre par Esdras. Et ce Dieu, la parole les a transformés. Je voudrais que ce matin, que je me taise, Saint-Esprit, que tu puisses toucher le cœur de tout un chacun ce soir, ce matin. Que ta parole touche tout un chacun de nous. Parce que la parole de Dieu ne descend pas sans pour autant faire des effets. Oh, Dieu, transforme au travers la parole ce matin tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent les péchés et se prosternèrent devant Dieu, devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebana, Buni, Shérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade et des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashabnia, Shérébia, Odija, Shebania, Pétaja, dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et toute louange. Je m'arrête là. En fait, quand la construction fut terminée, le peuple voulait écouter la parole de Dieu. Et donc, chaque jour, les scribes venaient pour enseigner. Ce jour, c'était un jour spécial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont assemblés et décident de célébrer un jeûne. Mais la question que nous devons peut-être commencer par nous poser, pourquoi ce jeûne ? Pourquoi ce jeûne ? Ils ont écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu les a touchés. Ils écoutent la parole de Dieu et bien ils décident de célébrer par le jeûne. Ils veulent en fait reconnaître que ce Dieu est puissant. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils voient leur petitesse, leur faiblesse, leur péché. Ils voient tout cela au travers de la parole de Dieu. Ce Dieu qui est grand, il décide, comme signe d'humilité, de jeûner pour exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que c'est une révélation, en fait, pour eux. Ils découvrent quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient pas connu. Parce que certains même qui étaient partis en Babylone, ils n'avaient même pas écouté cette parole. Ils ne connaissaient pas ce Dieu. Comme qui dirait Athènes, il y avait les gens adoraient un Dieu inconnu. Ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas ce Dieu. Mais d'autres, on avait entendu parler. Mais quand la parole de Dieu tombe, quand ils entendent la parole de Dieu, ils se disent, oh, quel malheur. Quel malheur. Nous sommes rien par rapport à ce Dieu qui nous a aimés. Ils voient, comme signe d'humilité, ils voient que ce Dieu est trop grand pour eux. Ils commencent à découvrir quelque chose de nouveau. Comme ce peuple qui marchait dans les ténèbres, qui voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière. C'est comme s'ils vivaient dans la mort. Mais ils voient une lumière. Donc cette lumière éclaire leurs âmes, leur cœur, et se rendent compte qu'ils ne sont pas dignes. À cause de cela, ils veulent se rabaisser, reconnaître ce Dieu. Et c'est pourquoi ils jeûnent. Ils jeûnent parce qu'ils veulent rependre leur cœur à ce Dieu. En écoutant cette parole ce matin, je pense que Dieu veut nous faire passer un message. Dans ce texte, mais la question que nous sommes amenés à nous poser, c'est quelle application directe est là pour nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, par rapport à ce peuple qui était au temps de Néhémie. Quelle application que Dieu veut nous donner au travers de cette parole. La première, c'est que la parole de Dieu, elle est puissante, capable de nous transformer. Elle est dynamique, capable de faire des effets au-delà de nous. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moindre. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est Hébreux 4, 12 à 14. La parole de Dieu, elle est puissante. Quand cette parole tombe dans le peuple se voit. Il voit ce qu'ils sont. Il voit leur indignité. Il voit leur faiblesse. Il voit leur péché. Et Dieu se rend compte que cette parole a de l'effet sur eux. Que cette parole pénètre dans leur cœur, leur parle, les transforme. Il décide de s'humilier. On ne peut pas être insensible à la parole de Dieu. On ne peut pas. Mais bien aimé, le défi que je vais vous lancer ce matin, si vous venez dans la maison de l'Éternel, vous écoutez la parole de Dieu, qu'elle ne pénètre pas dans votre cœur, c'est que le cœur est endurci. Parce que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, Dieu doit transformer nos cœurs. Cette parole doit pénétrer au-dedans de nous, nous séparer de ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Et si aujourd'hui nous écoutons la parole de Dieu, nous rentrons, nous repartons, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que notre cœur s'est endurci. Il y a quelque chose qui a endurci notre cœur. Est-ce que c'est les jugements? Est-ce que c'est notre ego? Est-ce que c'est notre hauteur? Qu'est-ce qui nous fait que cette parole nous puisse pénétrer? Et des fois, nous venons dans la maison de l'Éternel. On demande juste à la porte de quoi est-ce qu'on a parlé. On ne sait même plus parce qu'on l'a complètement abandonné. Mais bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons revenir à ce Dieu, parce que ce Dieu, la parole de Dieu, quand elle touche, elle transforme, elle change. Et ce peuple, quand ils ont écouté la parole de Dieu, en un instant, ils ont vu leur humilité, ils ont vu leur indignation. Ils se sont dit, nous ne sommes rien. Bien-aimés, nous devons réfléchir de temps en temps. Parce que la puissance de la parole n'a pas changé. Cette parole qui était prêchée, cette parole que Esdras avait prêchée, c'est la même que nous prêchons aujourd'hui. Ils lisaient la parole de Dieu. Quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont vu leur cœur. Qui étaient-ils? Quel cœur ils avaient? Et le deuxième effet que la parole produit au peuple qui l'entend, c'est de s'engager à le suivre. En confessant les péchés et ceux de leurs parents et de se séparer de ceux qui les avaient détournés de Dieu. Mais bien aimé, c'était pour eux une découverte. C'était une découverte parce que, en fin de compte, ils sont partis en aventure, ils sont partis à l'exil et comme chacun suivait sa propre voie, il faisait ce qu'il voulait. Ils ont contracté des mariages. Ils sont alliés, ils ont fait des alliances avec des peuples étrangers. Ces peuples, les bien-aimés, devaient les détourner de la voie de Dieu. Les bien-aimés, il faut faire attention de se mettre sur les jougs étrangers. L'homme le plus sage de la terre, il s'appelait Salomon, mais il est tombé à cause des femmes étrangères. Donc nos alliances, nous devons faire attention aux alliances. Avec qui nous allions. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérisiens, les Éviens, les Jérusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne le feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point de filles à leurs filles et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiront promptement. C'est ça la parole qui leur était annoncée. Ils ne savaient pas. Ils sont partis. Dieu leur avait donné des instructions précises. Mais arrivés dans les pays où ils passaient, ils contractaient des alliances. Ils se mariaient avec des femmes étrangères. Ils faisaient des enfants. Le défi ce matin, c'est de pouvoir faire attention. Parce que ces alliances que nous contractons en chemin vont nous amener à l'idolâtrie, vont nous amener à des choses interdites. Nous devons faire très attention. Et c'est pourquoi ce peuple, à l'écoute de cette parole, décide de se séparer de ce qui est étranger. C'est difficile, vraiment difficile de l'entendre. Il y a des enfants qui étaient là, c'est des victimes collatérales, mais il fallait se séparer. Ce Dieu était juste, fidèle. Parce qu'en fin de compte, il leur avait demandé de ne pas contracter. Et ils font vraiment une repentance véritable. Proverbe 28, 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse qui m'intéressent, moi, ce matin. » On peut confesser pour certains qui ont des addictions. On peut dire, « Oui, je renonce, je refuse, je confesse plutôt. » Mais le problème est qu'il faut renoncer, délaisser, revenir au pied de la croix. Ils voulaient suivre ce Dieu à la lettre. Ils voulaient le suivre à la lettre. C'est pourquoi ils ont pris l'engagement de se séparer de ce qui était étranger. Après la repentance, le peuple décide de se lever et bénir Dieu. C'est notre deuxième application. Je disais, il faut en tout temps bénir ce Dieu. Et bien aimé, il faut le bénir. Quand on est exposé à connaître Dieu par sa parole, on doit le bénir. Parce que cette parole, c'est notre vie. Étant enfant de Dieu, nous devons tous les jours, en se levant, reconnaître la grandeur de ce Dieu, la puissance, et adorer ce Dieu créateur de toutes choses qui nous renouvelle. Dieu mérite la louange. Notre Dieu mérite l'adoration pour ce qu'il est. Et c'est ce qu'ils ont décidé. Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Ils voulaient bénir ce Dieu qui était bon, grand, puissant. Mais bien aimé, à l'écoute de cette parole, les Lévites ont décidé que tous se lèvent pour reconnaître, pour bénir ce Dieu. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que tous ensemble, je vais lire cette parole, cette reconnaissance, mais je vais le lire tout doucement pour que vous connaissiez qui est ce Dieu. Et cela commence du verset 6. Bien-aimés, faites attention, je vais le lire tout doucement. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Ça, c'est le peuple qui le dit. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qu'elle est, tout ce qui est sur elle. Les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et à l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Ils veulent reconnaître les bontés de Dieu. C'est toi, qui, Éternel, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom de Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon. Contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire. Comme elle paraît aujourd'hui, tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux. Ceux qui marchaient à leur poursuite, tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendus sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescris par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent le cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, ils se mirent en oubli. Les merveilles que tu avais faites en leur faveur, ils raidirent le coup, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, long à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en fonte, ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qu'ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras les royaumes, des peuples dont tu partageas entre eux des contrées. Et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, le pays de Og, roi de Bazan. Tu multipliais leurs fils comme les étoiles des cieux et tu leur fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants des pays, les Cananéens, et tu les livras entre les mains avec leur roi et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres des villes fortifiées, des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées de vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se revoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Et tuèrent les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et se livraient envers toi à des grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de la détresse, ils crièrent à toi et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas les libérateurs qui les sauvèrent, le sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent le repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendus du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à toi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil. Et ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leurs coups et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit. Par les prophètes, ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu livres entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas. Tu ne les abandonnas pas car tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout un peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour, tu as été juste. Dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et n'ont point été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais, pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu les accordas dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré. Ils ne t'ont point servi. Et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. C'est le cœur des enfants de Dieu. Mes bien-aimés, ce matin, je veux vous dire, ce peuple n'a point changé. Ça a touché plus d'hommes. Nous sommes ce peuple. Quand nous regardons les bienfaits de Dieu, quand nous regardons sa main puissante, quand nous jouissons le bonheur de notre Dieu, à chaque fois, nous retombons dans les travers. Ce Dieu nous a aimés. Ce Dieu nous a aimés. Ce matin, la question que je peux peut-être poser à l'Assemblée, quel est le mot qui définit ce que nous venons de lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me répondre? Quel est le mot qui définit ce que nous venons de lire ou entendre? Que quelqu'un me réponde. Pardon? Je n'ai pas entendu. Amen. 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 Nous voyons combien ce Dieu est miséricordieux, bon, lent à la colère et riche en bonté. Combien de fois ils ont désobéi et combien de fois nous désobéissons. Mais ce Dieu n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. J'aime une parole de Dieu qui est dans Chronique 2, 7, 14, qui dit « Si le peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, cherche ta face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Ce Dieu, il est bon. Combien de fois nous l'avons abandonné? Combien de fois nous l'abandonnons? Mais ce Dieu est toujours là. Et il nous aime tant. Il nous aime tant. Eh bien, mais ce peuple n'est pas différent de nous. Ce peuple n'est pas différent. Et c'est pourquoi je disais, mes bien-aimés, chaque fois que tu te réveilles, il faut adorer ce Dieu, reconnaître les merveilles, la fidélité, les bienfaits de Dieu. Reconnaître la fidélité de Dieu et ses bienfaits. Mes bien-aimés, quand j'ai connu ce Dieu, c'est comme si je venais de découvrir un amour que je ne connaissais pas avant. J'étais tellement excité, parce que j'avais écouté la parole. J'avais connu ce Dieu. Et bien aimé, je me rappellerai toujours, même jusqu'à ma mort. Je vivais comme si je vivais dans une bulle. Je chantais dans la rue, dans les métros, je chantais tout seul. D'autres croyaient que je devenais même fou. Le changement était tellement radical. Moi qui n'aimais pas ce Dieu. Et je me rappelle même une fois, j'étais métro La Bastille, donc je devais faire une correspondance. La correspondance, elle est très longue. J'étais en train de chanter, je ne remarquais même pas qu'il y avait des policiers et des contrôleurs quelque part qui avaient barré là. J'étais en train de chanter, louer Dieu. Bien-aimé, quand j'arrive devant ces contrôleurs, tout le monde s'est écarté, je continue mon chemin. Ce Dieu, il est puissant. Franchement, ce Dieu, je ne pourrais, il n'y a pas de mot à qualifier ce Dieu. Mais quelque chose qui m'a marqué encore le plus, Je devais travailler du côté de Oni, vers Sergi. Ce jour-là, de là où je travaillais, le bus me laissait peut-être à 500 mètres, donc il fallait que je marche. Et si je vous dis que j'aime ce cantique contre les bienfaits de Dieu, je l'aime ce chant. Donc en fin de compte, j'étais en train de chanter. Quand sur la route glissante, quand je chante ce chant, j'arrive à ce moment. Je tombe. Je vous dis, je suis tombé. Et quand je me réveille, je commençais à rire. Je dis, Saint-Esprit, franchement, tu as laissé tes manières de nous toucher. Je riais, je dis, c'est vrai. Quand tu glisses, il faut reconnaître toujours ce Dieu. J'aimais ce chant, mais ça, c'était les années 93. Je chantais ce chant, c'est comme si tout ce que Dieu avait fait pour moi, je ne pouvais me taire. Je ne pouvais me taire, franchement. C'est comme si ce Dieu était à côté. Donc, quand je chantais, je le voyais. Quand je chantais, je savais qu'il m'accompagnait. J'étais heureux. Heureux, mais je vous dis heureux. Parce que je l'avais vu, en fait, dans ma vie, au travers de la maladie. J'étais tellement malade que je croyais que ma vie était finie. Et c'est vrai, j'ai aimé ce Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il avait fait, nulle personne ne pouvait le faire. Et donc, chaque jour, je proclamais, je bénissais ce Dieu. Parce que j'avais vu la main de ce Dieu. Il faut le bénir. Il faut l'aimer chaque jour. En fait, je vous ai dit, si cette parole aujourd'hui ne vous touche pas, revenez à Dieu. Parce que, et Dieu, nous avons vu les merveilles, les bontés de l'Éternel. Il ne se lasse pas de nous reprendre. Il est comme ce père qui voit son enfant, l'enfant prodigue, qui demande l'héritage, qui part. Il part. Il va faire toutes les bêtises de la terre. Dans son esclavage, il se rend compte qu'il a un père et il revient. Mais ce père n'abandonne pas. Mais bien aimé, si tu es perdu, ce matin je te rassure, ce Dieu il est bon. Ce Dieu qui t'a appelé ce matin, il est bon. Il ne te laissera jamais. Toi tu feras des bêtises, mais lui il est fidèle à sa parole. Toi tu feras des bêtises, mais lui il restera le même, il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons nous souvenir des bienfaits de Dieu. Je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas ta vie. Je ne connais pas ton parcours. Mais je sais que tu es là ce matin. Revois ta vie dans le passé. Revois cette vie-là. D'où Dieu t'a pris pour t'amener dans cette salle. Reconnais-le. Reconnais que c'est Dieu. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, qui sont plus valeureux que nous. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont plus la vie, mais Dieu. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. S'il peut nous garder jusqu'à aujourd'hui, écoutez cette parole. Bien-aimé, je te dis, Dieu nous aime. Et c'était la deuxième application. Quand on se repent, on doit se lever pour bénir ce Dieu. Du verset 36 que je vais lire, parce qu'il ne reste pas beaucoup. Du verset 36, il est dit, « Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses bienfaits. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. » Mais bien aimé, souvent, quand rien ne marche dans sa vie, dans notre vie, je l'ai entendu une même fois. Quand rien ne marche, pourquoi si Dieu m'aime, pourquoi je souffre tant? Pourquoi si je vis, pourquoi telle chose, telle souffrance? Eh bien, on commence à accuser Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a à faire, ce Dieu, dans nos souffrances? On accuse facilement ce Dieu pour nos souffrances. Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de souffrances? Mes bien-aimés, revenons à nous, sondons nos voies, regardons. Est-ce que nous sommes justes devant ces dieux? Lui, il est juste. Nous avons entendu, il est juste. Du début à la fin, il est juste. Mais est-ce que nous sommes justes pour dire que si les malheurs m'arrivent, c'est à cause de ce Dieu? C'est à cause de nous. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure pour entendre nos voix. Mais sondons-nous, regardons, est-ce que nous sommes sur la bonne foi? Nous devons juger Dieu, accuser Dieu. Oui, je souffre. Oui, ceci. Oui, cela. C'est à cause de Dieu. Non, non. Ici, le peuple dit, et nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur les terres que tu as données à nos pères pour qu'ils jouissent et ses fruits et de ses bienfaits. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assurés à cause de nos péchés. C'est à cause de nous. Ce n'est pas à cause de Dieu. Toute la misère, c'est à cause de nous. Ce n'est pas à cause de Dieu. Puis quoi, restez tranquilles, restons tranquilles. Ne jugeons pas Dieu. Dieu, il est Dieu. Il est au-dessus. Dieu nous connaît. Nous avons vu qu'à chaque fois que les enfants d'Israël faisaient des bêtises, ils les reprenaient. S'il y a tant de souffrances, ce n'est pas à cause de Dieu. S'il y a tant de souffrances, ce n'est pas à cause de Dieu. Un exemple dans la Bible, je peux prendre le psaume 107 qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes. Mais je vais un peu plus loin. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra. Chaque fois, je vous dis, chaque fois que nous nous sommes détournés de la voie de l'Éternel et que nous sommes revenus à lui, il est bon, il ne nous abandonne pas. Ce Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Et c'est ce que le peuple d'Israël avait expérimenté à Jérusalem. Parce qu'ils revoyaient ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils étaient et ce que Dieu était. Dieu était au-dessus de tout. Mais les hommes ont fait du mal. À cause de sa bonté, à cause. Eh bien aimé, je vais terminer là-dessus. À cause de la bonté de ce Dieu qui nous aime. Aujourd'hui, nous continuons encore à nous éloigner de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il a pratiquement livré afin que quiconque croit en lui ne périsse. Jésus est venu pour toi, pour te sauver. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois, quand tu entends la parole de Dieu, veux-tu qu'il soit ton maître? Ce Dieu, à un moment même, s'est fabriqué des dieux. Quelle audace! Ils voient, ils ont bien vu la main de l'Éternel, mais ils créent un Dieu étranger. Quelle audace! Jésus est venu pour nous racheter. Et ce matin, Jésus veut encore nous racheter. Mais bien aimés, quand ils eurent confessé que tout ce qui était arrivé, c'était pas à cause de Dieu, mais c'était à cause de leur péché. Mes bien-aimés, tous d'un commun accord, ils se sont levés pour contracter une alliance nouvelle. Mes bien-aimés, ce matin, je propose que nous revenions à Dieu, contracter une nouvelle alliance. Je ne sais pas quelle alliance tu as contractée avec telle ou telle personne, avec tel ou tel service, avec tel ou tel je ne sais quoi. Mais Dieu t'a envoyé Jésus ce matin. Il veut que tu puisses reconnaître qu'il est bon pour toi. Il voudrait que tu puisses témoigner que ses bienfaits ne sont pas épuisés, ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais bien aimé, nous allons nous lever tous. J'espère que cette parole t'a touché. J'espère que tu as écouté combien notre Dieu est fidèle, combien notre Dieu est puissant. À chaque fois que nous nous sommes éloignés de ce Dieu, même s'il nous a punis, il ne nous a jamais abandonnés. Même s'il nous a punis, il ne nous a jamais abandonnés. Car il nous attend toujours. Il veut que nous revenions vers lui. Il veut que nous puissions reconnaître qu'il est Dieu, contracter une alliance, dire « Dieu, je reviens vers toi. Jésus, tu as donné ta vie, j'ai besoin de toi dans ma vie. » Nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes. Je voudrais que ce matin, si tu t'es éloigné de ce Dieu, tu viens par convenance dans la maison de l'Éternel. La parole de Dieu ne te pénètre plus, elle rebondit. Parce que si elle pénétrait dans ton cœur, tu serais changé, transformé. Mais tu n'es pas changé parce que la parole de Dieu rebondit en toi. Et si tel est le cas, bien-aimé, tu vas remettre ta vie à Dieu. Dieu est fidèle, il n'a point changé. Il veut seulement que tu puisses lui remettre sa vie. Et bien-aimé, inclinons nos têtes. Et celui qui veut revenir à ce Dieu, je demanderai de lever sa main. Qu'il lève sa main seulement et nous allons prier. Parce que soit nous nous sommes éloignés de ce Dieu, soit nous l'avons abandonné, soit nous l'avons jugé à cause de nos souffrances. Nous avons dit, c'est à cause de ce Dieu. Mais je te rassure ce matin, ton Dieu, il est bon. Il n'a point abandonné. Il te connaît. Il t'a laissé venir ce matin pour que tu puisses revenir. Et il t'appelle ce matin. Lève ta main. Je veux te voir. Je veux te voir. Amen. 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 Baissez vos bras. J'ai vu. Dieu voit votre cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Ce matin, oh Dieu, je suis dans la joie. Je croyais que cette parole était seulement mienne. Mais je vois aussi que cette parole est aussi pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ce matin. Tu nous as pris de là où nous étions. Tu nous as ramenés. On était dans la souffrance errant. On était dans les difficultés. Tu crées un cadre. Tu crées un cadre qui est ton église. Tu crées une maison pour que nous venions encore, oh, nous repentir. Pour que nous venions nous repentir, délaisser ceux qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Père, moi je te remercie. Dans la souffrance gérée, j'étais errant, ne sachant plus où aller. Mais dans ta grande miséricorde, tu m'as donné un toit. Tu m'as donné un cadre. Aujourd'hui, le projet que tu avais, fait pour moi, je suis en train de le voir parce que je suis en train de rentrer dans ton projet. Et ton peuple, si présent, veut le rentrer dans ton projet ce matin. Ils veulent revenir à toi, Dieu Tout-Puissant. Emmanuel, Dieu fidèle, je chanterai ta fidélité.
Pendant ce chant, nous allons...
faire passer les paniers pour leur prendre notre parole au rayon de lumière. Si à repentance, laissez d'abord l'argent. Qui a repentance aura sa part.
Dans mon parcours sur la voie.